Les aventuriers.
Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás.
Quizás, quizás.
Les aventuriers. Une émission de quizás, Fabienne Chauvière.
Quizás.
Je m'appelle Daniel Linco, je suis chercheur au CNRS, directeur de recherche au CNRS et je suis spécialiste des recherches dans le domaine de l'énergie photovoltaïque.
Le soleil dans la peau, il l'a depuis plus de 30 ans, Daniel Linco, ce physico-chimiste du CNRS est notre grand spécialiste français de l'énergie photovoltaïque. Il travaille sur la synthèse de cellules pour qu'elles soient plus faciles et beaucoup moins chères à produire. Daniel Linco est chercheur, mais ses rêves vont bien au-delà des découvertes de laboratoire. Ce qu'il aimerait, c'est voir des panneaux photovoltaïques partout, sur les toits, les routes, dans les champs, car dit-il, ce qui devraient être sur les marchés dans les années à venir seront fins et souples. On pourra leur donner toutes les formes, toutes les couleurs, on pourra les rouler, les plier, les sortir et les ranger au gré des humeurs du temps. Daniel Linco imagine même un nouveau métier, celui d'énergiculteur. Les énergiculteurs produiraient avec la lumière du soleil l'électricité pour nos voitures, nos maisons ou notre éclairage. Et ce rêve serait à portée de main. Les recherches sont foisonnantes en ce moment dans les laboratoires du monde entier. La France est d'ailleurs particulièrement bien placée dans ce domaine. Daniel Linco dirige l'Institut de recherche et développement sur l'énergie photovoltaïque et il participe à la fondation de l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France qui est en construction sur le plateau de Saclay. Cet homme passionné n'est pas lunaire, loin de là. Ses arguments sont scientifiques et en plus, il est très chaleureux, comme l'astre dont il espère tant.
C'est une passion, l'énergie solaire ?
Oui, le mot est bien choisi. C'est une passion à la fois scientifique et éthique.
Cette passion est née quand ?
Elle est née au millénaire dernier, dans les années 70, ou quand j'étais étudiant à Paris, dans les années 73-74. Elle est née d'une conjonction entre à la fois le choc pétrolier, les débats sur l'énergie, donc j'étais dans une école d'ingénieurs à Paris, les débats sur l'énergie, et également la sensation que l'énergie solaire pouvait répondre à la question, c'est-à-dire qu'il y avait un climat extrêmement favorable également à l'énergie solaire à ce moment-là, dans le monde, mais en France en particulier, à Paris.
C'est vrai que vous avez servi du thé au Jardin du Luxembourg, chauffé à l'énergie solaire dans ces années-là ?
Oui, parce qu'en fait, j'étais à l'école de physique et chimie industrielle, qui est juste à côté. Il y avait un club de troisième année qui avait monté, à l'époque, on ne parlait pas beaucoup encore de solaire photovoltaïque. On parlait beaucoup de solaire thermique. Et le solaire thermique, qu'est-ce que c'est ? C'est des miroirs réfléchissants qui concentrent la chaleur et qui font chauffer n'importe quel fluide qu'on met au point noir. Et donc, les élèves avaient monté un club qui consistait à utiliser des plaques de fer blanc qu'on allait chercher dans une petite entreprise au sud de Paris, ramener sur la voiture, et on avait fait des formes et en particulier ce qu'on appelle le cylindro-parabolique, c'est-à-dire en fait, on concentre et on peut très bien à ce moment-là mettre un tuyau de cuivre au milieu et faire chauffer de l'eau qui sort bouillante. Et donc, on avait fait cette démonstration au Jardin des Plantes.
Quelles étaient les réactions des passants ?
Évidemment, c'est toujours surprenant de voir le pouvoir calorifique. On est tous fascinés par les loupes, par l'énergie solaire concentrée, et donc en fait, l'impact était très important.
Le thé au Jardin du Luxembourg, c'était il y a plus de 40 ans. Aujourd'hui, quand vous parlez du solaire, qu'est-ce que vous rêvez de faire avec le solaire ?
Je rêve d'en faire une source d'énergie pour l'humanité, qui soit une des sources d'énergie propre, durable.
Quand vous voyez les toits des maisons, les routes, vous imaginez des choses très particulières ?
Oui, en fait, j'imagine que ces surfaces exposées au soleil, non seulement fassent la fonction qu'elles sont censées faire, protection, etc., mais également qu'elles soient énergétiques. C'est-à-dire qu'en fait, toute toiture, les routes, toute surface peut convertir en électricité aujourd'hui. C'est ça la beauté de l'énergie solaire et de l'énergie photovoltaïque. C'est qu'une surface, elle n'est pas passive, elle est active, elle peut donner de l'énergie et avec des proportions qui sont très surprenantes parce qu'avec la surface de toit de routes, de terrains, etc., il y a de quoi couvrir une grande partie de la consommation énergétique mondiale, française. Et c'est ça qui fait rêver. C'est-à-dire aujourd'hui, de se dire que la mutation qui est en train de se faire, c'est la prise de conscience qu'on peut faire autre chose d'une surface que simplement la première application de protection, etc.
Alors décrivez-nous une ville telle que vous aimeriez la voir d'ici 10, 20 ans peut-être.
Alors ce que je souhaiterais, c'est quand on regarde d'avion, on s'aperçoive que finalement, les toitures sont des toitures solaires. La ville que j'imagine, c'est une ville dans laquelle le solaire ou l'énergie est aussi, en collecte d'énergie, est aussi présent partout. Il peut être présent sur les façades, il peut être présent également sur les sols, sur des sols de route, de place. Vous savez, quand on met des fleurs quelque part, il suffit de mettre un peu de terre quelque part, même dans une ville, pour que des fleurs poussent. Et j'ai cette vision de l'énergie qui est que dès lors qu'il y a du soleil, dès lors qu'il y a de la lumière, l'énergie peut être utilisée.
Ce serait beau.
Ah oui, oui, il faut que ce soit beau. Il faut essayer de dégager, de séparer la vision énergie, je dirais, classique. Aujourd'hui, avec l'énergie solaire, on peut aussi faire une énergie qui va s'intégrer dans les paysages, qui va s'intégrer à différentes échelles, dans les tissus urbains, mais aussi dans les tissus non urbains, au niveau des campagnes, etc. Et il faut absolument que ce soit beau. Donc, les modules solaires s'intègrent avec un design. Il y a beaucoup de créativité, d'ailleurs, aujourd'hui.
Des couleurs.
Des couleurs, oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui, mettre des panneaux photovoltaïques qui vont épouser les couleurs qu'on aime, par exemple le rouge des tuiles ou le gris anthracite qu'on peut avoir en Bretagne ou le rouge qu'on peut avoir dans le sud de la France. Je crois que ça fait partie des choses qu'on a à faire. On a à faire de l'énergie, mais l'énergie intégrée dans l'environnement humain.
On pourrait même mettre des voiles qui récupèrent cette énergie.
Ah oui. Aujourd'hui, pour faire de la production d'électricité, ça n'a pas besoin d'être lourd. La matière qui joue pour fabriquer, pour transformer les photons en électricité, en fait, c'est quelques dizaines de micromètres. Donc ça veut dire qu'on peut faire un solaire extrêmement léger. C'est-à-dire qu'une voile solaire peut donner l'équivalent en production de plusieurs kilowatts, etc. Donc on peut très bien imaginer que dans les évolutions futures du solaire, on aura aussi du solaire qu'on pourra définir comme déployable. Ça sera multiforme et à chaque domaine, il y aura son type de cellule quelque part.
Et vous y croyez vraiment ?
Ah oui, oui. Et de plus en plus. J'y crois vraiment depuis tout temps. En matière comme un ingénieur, si vous voulez, comme un scientifique. Je peux faire des calculs, combien il y a d'énergie qui arrive par mois, par an, à tel endroit, combien on peut convertir. Donc dans les chiffres, dans les données, il n'y a pas photo. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas croire à l'énergie solaire quand on raisonne sur la base de données, de chiffres. Par contre, ce qui se passe, c'est que entre le rêve de cette énergie et la réalité, eh bien, la réalité, elle est têtue. C'est-à-dire qu'il faut être capable de faire des cellules solaires qui soient à la fois efficaces, qui ne soient pas trop chères, qu'on puisse faire en grande quantité, et puis ensuite qu'elles puissent démarrer dans le marché. C'est-à-dire qu'il y a aussi une chose, c'est qu'une technologie, la plus belle soit-elle, si elle n'atteint pas un certain moment critique, elle peut rester confidentielle. Et le solaire faisait partie, jusqu'à quelques années, de ce type d'énergie qu'on disait impossible parce que c'est trop cher.
Oui, donc il faut atteindre ce seuil de rentabilité.
Voilà, il a fallu atteindre ce seuil de rentabilité qui fait que peu à peu, le solaire a été, le photovoltaïque en particulier, il a été rentable très tôt dans l'espace. Mais par contre, sur Terre, il est en compétition avec les sources d'énergie traditionnelles.
Daniel Linco, est-ce que vous pouvez faire la différence entre l'énergie solaire photovoltaïque et l'énergie solaire thermique ?
Alors l'énergie solaire thermique, commençons par l'énergie solaire thermique. Je dirais que c'est celle qui est la plus classique, c'est-à-dire qu'en fait, les photons arrivent sous forme d'énergie électromagnétique, ils sont absorbés par la matière, et donc en fait l'énergie solaire thermodynamique, comme on dit, c'est la transformation énergie de la lumière vers de la chaleur.
Je résume de façon simple. Un tuyau rempli d'eau au soleil chauffe et ça fait de l'eau chaude.
Bien sûr. Et en fait,
c'est ça l'énergie solaire thermique.
Et l'énergie solaire thermique va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous regardez l'éolien aujourd'hui. C'est une énergie solaire dérivée de l'énergie thermique. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a des courants d'air chaud et d'air froid, donc des différences de température créées par le soleil, qu'il y a des mouvements de convection de l'air. Donc l'éolien est une énergie solaire d'origine thermique. Donc en fait, la plupart des énergies renouvelables sont souvent des énergies solaires dérivées. Et l'énergie solaire thermique proprement dit, celle qu'on utilise de plus en plus dans ce qu'on appelle le solaire thermodynamique, c'est où on fait directement, on concentre la chaleur, on monte à des températures très élevées et l'eau ou les fluides de l'huile passent dans des tuyaux et refont tourner des turbines.
L'énergie solaire photovoltaïque, qu'est-ce que c'est ? C'est la transformation de photons en électrons.
Oui, c'est ça. Et en fait, la beauté de la chose, c'est que la lumière du soleil qui nous arrive, les petits grains d'énergie qui sont les photons, ont juste la bonne énergie pour ce qu'on appelle exciter les électrons. On donne de l'énergie électrique à un électron, et ensuite le photovoltaïque, c'est tout simplement essayer de récupérer l'électron quand il est excité pour le faire aller dans un circuit extérieur.
Et tout ça avec une source gratuite et naturelle.
Et tout ça avec une source gratuite, naturelle et qui peut durer, qui va durer beaucoup.
Quelques milliards d'années encore.
Oui.
Everybody likes to talk. Ooh la la, ooh la la, ooh la la.
Rock and Roll is Cold, c'était Matthew E. White sur France Inter et vous écoutez Les Saventuriers. La recherche dans le domaine du photovoltaïque a connu au cours des dernières décennies des hauts et des bas. À la suite du premier choc pétrolier, les années 70 ont été très porteuses. Et de nouveau, elles suscitent aujourd'hui l'intérêt de nombreux chercheurs. Pour Daniel Linco, monsieur photovoltaïque en France, l'énergie solaire n'est pas une utopie. Comment se porte la recherche dans le domaine du photovoltaïque en ce moment ?
Elle est foisonnante, je dirais qu'elle n'a jamais été aussi foisonnante depuis des dizaines d'années, parce que les chercheurs du photovoltaïque, pendant très longtemps, avaient peu d'écho quelque part. C'était une recherche qui était faite par des passionnés, très souvent, dans le monde entier, mais avec une recherche qui n'avait pas trouvé encore son objet. Or, les chercheurs qui travaillent dans le domaine du photovoltaïque, ce dont ils rêvent, c'est que le photovoltaïque devienne une réalité. Et là, il se passe une chose depuis une dizaine d'années, depuis 2006 en fait, c'est que le domaine a rencontré son marché. C'est-à-dire qu'il y a une industrie qui s'est développée, le photovoltaïque devient de plus en plus rentable, compétitif, il est considéré par des villes, des collectivités, des gouvernements. Cette attention, ce renouveau d'intérêt pour l'énergie photovoltaïque de la part de la société se traduit par, en fait, un bouillonnement au niveau de la recherche, globalement plus de moyens, une créativité étonnante, etc. Donc c'est une communauté qui, elle, quelque part, au niveau de la recherche, est heureuse.
Alors qu'est-ce qui se passe dans les laboratoires ? Qu'est-ce qui se passe dans votre laboratoire ?
Dans notre laboratoire, on essaye d'augmenter le rendement, le fameux rendement de conversion photovoltaïque, c'est-à-dire combien d'électricité peut-on produire avec une certaine quantité de lumière. En fait, le rendement, c'est le rapport entre l'énergie électrique produite par les cellules solaires et l'énergie optique qui arrive au début de la cellule.
On en est à combien ?
Alors aujourd'hui, je vous donne le rendement record, toute catégorie est à 44,6%. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que c'est sous concentration lumineuse, avec des systèmes compliqués, c'est des multijonctions, comme on dit. Mais il se rapproche des 50%. Mais dans la vraie vie, les rendements aujourd'hui des photovoltaïques qu'on va retrouver sur des toitures, dans des fermes solaires, aujourd'hui, dans les laboratoires, les cellules au silicium sont à 25,6%. Et d'autres catégories de cellules qu'on appelle les couches minces, sur lesquelles je travaille plus précisément, sont autour de 22%, 21,7%.
Alors, on travaille à obtenir de meilleurs rendements, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites ?
Alors concrètement, une cellule solaire, c'est un empilement, c'est une technologie en fait. Il y a des matériaux. Il faut préparer des matériaux, il faut les purifier, il faut les combiner entre eux, et il faut en fait une cellule solaire, c'est du verre, ensuite sur le verre il y a des couches métalliques, des couches dites de semi-conducteurs, etc. Et il y a en général une dizaine d'étapes et de couches. Donc le travail des chercheurs, ça va être un travail d'améliorer
les
propriétés des couches et des interfaces, de les faire pousser différemment.
Vous parlez du verre, c'est pour ça qu'on évoque souvent le silicium quand on parle de cellules photovoltaïques.
Le silicium est aujourd'hui l'élément fondamental le plus important pour le photovoltaïque. Le silicium, c'est en fait issu du sable. Hein. Enfin, c'est le deuxième élément de la croûte terrestre. Alors là, souvent, on entend dire qu'il y a de la rareté. Le silicium n'est pas du tout rare. Par contre, il faut le purifier. C'est-à-dire qu'en fait, quand il est dans la terre, il est sous forme de silicate ou d'oxyde. Donc, il y a des étapes de purification où, à partir de sable ou de quartz, on va le ramener à du silicium purifié, et c'est ce silicium purifié qui est à la base de 90% des cellules solaires aujourd'hui commercialisées. Et les 10% restants, c'est d'autres matériaux qui ne contiennent pas de silicium, qui sont à base de cuivre, qui peuvent avoir du soufre, qui peuvent avoir donc des matériaux qui sont plutôt des matériaux qu'on appelle en couche mince. Le silicium aujourd'hui, ce sont des plaquettes qui sont souvent découpées.
Il y a quelques années encore, les cellules photovoltaïques, on les fabriquait dans des endroits très protégés, qu'on appelle des salles blanches. Mmh. Et aujourd'hui, on peut les fabriquer à l'extérieur, dans des ambiances qui ne sont pas forcément protégées. Et c'est une de vos découvertes, ça ?
En fait, vous me posiez la question, qu'est-ce que recherchaient les chercheurs ? D'une part, ils veulent augmenter les rendements, bien entendu, mais d'autre part, ils veulent abaisser le coût. Et pour améliorer le coût, il faut souvent changer de procédé. Et moi, ce qui m'a toujours fait rêver, c'est que le photovoltaïque, c'est des milliers de kilomètres carrés, quand on y réfléchit. Mmh. Donc, en fait, c'est de se dire, finalement, il faudrait qu'on arrive à rapprocher le photovoltaïque, non pas uniquement des salles blanches de l'électronique, mais des technologies du revêtement. L'image d'Épinal, c'est de dire on fait des cellules solaires avec de la peinture ou avec de l'imprimerie. Et on a réussi à développer des cellules solaires en couche mince simplement par la technique d'électrolyse. C'est-à-dire on fait passer un courant électrique dans une solution qui contient des sels de cuivre, des sels d'indium, de gallium. Et il y a une super couche qui se dépose à la surface et qu'on peut mettre sur des surfaces très grandes. Et là, on était moins regardant sur le rendement, mais on voulait mettre au point des procédés très bas coût.
Et en fait, et ça marche.
Et ça marche.
Les panneaux solaires que l'on voit aujourd'hui ne sont pas fabriqués avec cette technologie.
Non, pour l'instant,
pas
ceux
encore.
Qui sont pas encore. Aujourd'hui, vous avez surtout des panneaux solaires qui sont fabriqués par des technologies issues de la microélectronique, qui sont des plaquettes de silicium découpées. C'est pour ça qu'on voit des plaquettes soit noires quand c'est monocristallin, soit avec des petites zébrures quand c'est polycristallin. Mais c'est du silicium.
Qu'est-ce qu'on cherche encore dans votre laboratoire ?
Alors, on recherche toujours à augmenter les rendements parce que ça reste un élément clé. L'autre chose, c'est de continuer à travailler sur l'amélioration des procédés de fabrication, les rendre encore moins chers, les rendre encore plus fiables, etc. Donc ça, ça fait partie de nos travaux. Et on a des lignes de recherche aujourd'hui qui consistent aussi à essayer d'économiser la matière.
Des cellules photovoltaïques à base de matériaux organiques, vous travaillez dessus ?
Oui, on travaille sur des cellules qu'on appelle des cellules à colorants. Aujourd'hui, des cellules organiques qui imitent un peu la photosynthèse. Ce qui est extraordinaire, c'est que la petite cellule photovoltaïque qui est à l'intérieur de la chlorophylle est une petite cellule solaire, mais à l'échelle d'une molécule. Et en fait, depuis une quinzaine d'années maintenant, les chercheurs se sont rendus compte qu'on pouvait utiliser l'effet photovoltaïque, non seulement sur des semi-conducteurs comme le silicium, les autres, mais aussi en utilisant carrément des molécules organiques. Et là, il y a un peu un effet étonnant qui est le photovoltaïque organique à partir de molécules, à partir de fullerènes, de carbone, etc., qui connaît un décollage un peu comme on le voit en électronique organique avec les panneaux électroluminescents à base d'organique, etc. C'est-à-dire aujourd'hui, l'électronique organique se traduit par des avancées dans le domaine du photovoltaïque organique.
Quelle est la part d'énergie solaire en France ?
Alors aujourd'hui, en photovoltaïque, a franchi une barre symbolique, la barre des 1% de la consommation électrique en France.
Production électrique. C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup ?
Alors c'est énorme par rapport à ce qu'il y avait il y a quelques années, il y a 4 ans ou 5 ans. Personne n'aurait imaginé ça, mais surtout, quand vous êtes en Allemagne aujourd'hui, en Allemagne c'est pratiquement 6%, en Italie 7,5%. En quelques années, en Chine aujourd'hui, le photovoltaïque est en train de se développer à toute vitesse.
Y croire, ce n'est pas un rêve complètement éthéré.
Ah, c'est pas du tout éthéré. Je vois que ça progresse partout, mais mon appel, c'est à redresser là-bas, de nous remettre au niveau économique, à recréer de l'emploi dans le domaine du photovoltaïque, se remettre en avant, parce que on parle d'économie, de chômage, etc. Les perspectives de développement de ce domaine au niveau économique sont très importantes. Il y a des marchés en exportation, etc. Mais si en France, on n'est pas capable, finalement, de montrer l'exemple aussi in situ, quelque part, on passera à côté d'opportunités très importantes. Il faudrait recréer l'élan collectif. Quand je vous donnais au début de notre discussion ma vision vue d'avion de la ville de demain, elle a des panneaux solaires sur tous les toits. Eh bien, on avait commencé à le faire en France et aujourd'hui, c'est un peu à l'arrêt. Et je pense qu'il faut refaire une mobilisation autour de ce domaine-là parce qu'il y a vraiment du potentiel et qu'il est bien placé en France.
Ensemble, c'était Maya Kamati, la Réunionnaise, et vous êtes bien sur France Inter. L'histoire de l'énergie photovoltaïque a démarré il y a près de 2 siècles avec la découverte d'un très jeune chercheur. Elle a commencé à se développer beaucoup plus tard avec l'industrie spatiale et fait partie de nos paysages depuis peu. Des chercheurs l'ont portée et la portent encore, mais pas seulement. Le sujet a enthousiasmé des personnalités comme le dessinateur Reiser. Daniel Linco, chercheur au CNRS, connaît cette histoire sur le bout des doigts. Ça a commencé quand, cette histoire de l'énergie solaire ?
En fait, l'histoire de l'énergie solaire, on va la dater de sa découverte, le moment où on a dit qu'on avait découvert l'effet photovoltaïque. Il a été découvert en 1839 par un Français qui s'appelle Alexandre Edmond Becquerel. Il avait 19 ans.
Le Becquerel dont vous parlez, c'est pas celui qui est très célèbre, hein ?
Non, c'est son père, qui est le découvreur de la radioactivité, qui a donné son nom d'ailleurs à l'unité. Et en fait, de façon étonnante, je dirais qu'il y a guère qu'en France qu'on ne connaît pas tellement Edmond Becquerel, alors qu'il est, au niveau international, reconnu comme le découvreur de l'effet photovoltaïque.
Qu'est-ce qu'il a découvert ?
Alors à l'âge de 19 ans, en fait, à l'époque, il fallait voir que c'était les travaux de Volta. On avait commencé à découvrir l'effet de la pile électrique, la pile de Volta, où on empilait du zinc, du cuivre, avec des buvards imprégnés, etc. Et donc à cette époque-là, les chercheurs travaillaient, les physico-chimistes travaillaient sur de la compréhension de cet effet. Qu'est-ce qui se passe quand on met deux métaux différents dans un liquide avec un sel ? Et ce qu'a découvert Edmond, et c'est typique du métier de chercheur, il a découvert que quand il y avait de la lumière, le déflecteur qui montre qu'il y a du courant qui passe dans le circuit, eh bien il bougeait. Et c'est là qu'on voit la création, la découverte. Il a commencé à changer la couleur, à mettre des filtres, etc. Mmh. Et donc, il en a déduit une note à l'Académie des sciences, un compte-rendu de l'Académie des sciences, l'effet de la radiation lumineuse sur le comportement des métaux. Et c'est l'effet photovoltaïque qu'il avait découvert.
Qu'est-ce qu'on a fait de cette découverte au début du 19e siècle ? On s'en est pas vraiment servi.
Si, dans l'histoire des sciences, après, ça a été l'effet de la lumière sur les matériaux. Il y a eu la photoconductivité. On a commencé à se rendre compte que on a commencé à mesurer la lumière avec ce qu'on appelle des photodétecteurs. Et donc, il y a eu tout un travail qui a été fait. Mais il a fallu vraiment attendre l'avènement de l'électronique. Et en fait, le vrai décollage de l'énergie solaire photovoltaïque, les premières cellules efficaces, c'est 1953-1954 à la Bell Telephone aux États-Unis. Concomitant avec la réalisation des premiers transistors à semi-conducteurs. C'est-à-dire qu'en fait, les transistors, c'est fait avec du silicium ultra purifié. Et quand on fait une jonction silicium qu'on appelle PN, on les met l'une sur l'autre. Et entre les deux, vous savez ce qui se passe ?
Ben non.
Il y a un champ électrique qui est très important. Et en fait, le fait d'avoir fait des diodes silicium de très haute qualité a permis de faire des premières cellules qui ont commencé à aller vers les 6, 10, 11% en 2-3 ans.
Mais comment se fait-il que cette technologie qui se développait dans les années 50 n'ait pas abouti ?
Ah, elle a plus qu'abouti. Elle a même
abouti. Mais pourquoi il n'y a pas des panneaux solaires partout ?
Ah, mais parce qu'il y a la question du coût. On revient toujours à ce dialogue. Et vous savez, pendant pas mal de dizaines d'années, il y a eu le choc pétrolier qui a donné un coup de booster sur les énergies renouvelables dans les années 70. Mais il y a eu le contre-choc où le prix du baril, il est redescendu à 15 centimes d'euros. Enfin bon. Et donc, en fait, il n'y avait plus aucune driving force, comme on dit en anglais, pour redévelopper des solutions très chères. Et à l'époque, le différentiel de coût entre une cellule solaire et le kilowattheure produit avec du diesel ou autre, c'était 100 fois plus. Donc, il n'y avait pas de réel driver. Par contre, quand vous êtes travaillé avec des satellites, alors là, ça devient différent. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui a joué le rôle d'accélérateur des technologies photovoltaïques, c'est qu'en même temps, dans les années 50, il y avait Spoutnik et il y a eu les satellites dont on ne savait pas quoi faire. Ils continuaient à tourner, mais ils n'avaient plus d'alimentation électrique. Donc, dès 58, le satellite américain Vanguard avait déjà des cellules. C'est un exemple de transfert de la recherche à l'industrie. En 2-3 ans, il y avait déjà une industrie photovoltaïque dès les années 50.
Et comment se portait le photovoltaïque en France dans les années 70 ? Très très bien.
En fait, au départ, le photovoltaïque était essentiellement à vocation spatiale. Donc les grandes puissances spatiales faisaient du photovoltaïque à très haut niveau. Et en particulier, les Américains, les Français étaient très en avant avec le CNES, etc., le CNRS, pour à destination de satellites. Mais il y avait déjà depuis plusieurs années, dès les années 50, au niveau de l'UNESCO, au niveau de l'ONU, des programmes qui étaient des programmes d'énergie solaire. Et donc, dans les années 70, il y avait un tissu en France de chercheurs, de laboratoires, exceptionnel. Enfin, moi, ce sont mes pères, quelque part, ouais, au niveau du domaine. Et quand je revois ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont fait, le niveau qu'ils ont atteint, ils étaient au premier rang mondiaux et comme moteur. Pour vous donner un exemple, quelqu'un qui est un physicien très connu, hein, qui s'appelle Pierre Auger, qui est connu pour la recombinaison Auger, il chantait l'hymne au solaire en 1973 à l'UNESCO lors de la grande conférence sur le soleil au service de l'humanité.
Et, une vraie chanson.
Il y avait une chanson. C'est une époque où on aimait bien les chansons. Et donc, il y avait des chercheurs de l'école polytechnique, du CNRS, des universités. Il y avait un engouement très fort qui, par la suite, a baissé un peu.
Donc, cette époque aussi a été bouillonnante, foisonnante. Et vous dites même que Reiser a fait beaucoup pour le solaire.
En fait, il y avait une sorte de conjonction étonnante, une envie de proposer quelque chose. Et l'énergie solaire, c'est pas une énergie neutre quelque part, elle touche beaucoup. Et donc, il y avait une sorte de conjonction de bonnes forces, mm-hmm, qui était d'un côté des scientifiques qui disaient « ça peut marcher », et il y avait des gens de la société qui poussaient en disant « mais ça serait très bien l'énergie solaire ». Et dans ce mouvement sociétal, qui a été un petit peu au départ des mouvements écologistes, etc., il y avait Reiser qui s'est
donc
pris...
Donc le dessinateur Reiser.
Le dessinateur Reiser qui s'est pris de passion, mais il n'y a pas d'autre mot, pour l'énergie solaire.
Alors qu'est-ce qu'il a fait ?
Eh bien, il a fait des tas de dessins. Des caricatures, il a fait des dessins, ma petite maison solaire, où on voyait une petite maison sur laquelle il y avait un panneau solaire, une petite éolienne, etc. Donc il a rêvé, il a fait rêver Reiser. Reiser a été un compagnon de route de toute la communauté scientifique photovoltaïque. Pour vous dire un exemple, il y a eu une conférence photovoltaïque qui a eu lieu à Cannes, je crois que c'était en 84. Eh bien, il était là, il a fait des dessins.
Ah, c'est un vrai passionné.
Qui ont été vendus aux enchères pour installer des pompes solaires en Afrique.
Il y a des dessins de Reiser dans votre bureau ou dans votre labo ?
Oui, j'ai celui avec ma petite maison solaire que j'adore, où on voit une petite maison, c'est l'autoconsommation à la mode 1973, mm-hmm, ou peut-être un peu après, où on voit une maison et qui est déjà auto-alimentée avec des panneaux thermiques qui font de la chaleur. Alors cette fois-ci, c'est le solaire thermique, hein, il n'y a pas que le photovoltaïque, donc faire de l'eau chaude. Il a un panneau photovoltaïque qui produit l'électricité avec des batteries, etc. Donc on a déjà le stockage. Et puis il y a une petite éolienne. Vous voyez qu'il était quand même pour le mix énergétique.
On écoute Renaud et Axel Red, Manhattan Kaboul.
Petit portoricain, bien intégré quasiment new-yorkais, dans mon bulletin tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café.
Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien c'est la misère.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
À 747, c'est explosé dans mes fenêtres.
Mon ciel si bleu est devenu orage lorsque les ponts m'ont rasé mon village.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
So long, adieu mon rêve américain.
Moi, plus jamais esclave des chiens.
Il t'imposait l'islam des tyrans.
Cela ont-ils
devenu poussière. Je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse au pied d'argile.
Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations font toujours de nous de la chair à canon. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
Étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
Des panneaux photovoltaïques qui répondraient à tous nos besoins énergétiques sans polluer, sans rejet de gaz à effet de serre, c'est le monde auquel aspire Daniel Linco. Un monde qui n'est pas utopique puisque le photovoltaïque devient compétitif. Dans les laboratoires, les rendements théoriques dépassent les 85%. Quand on est chercheur et qu'on s'intéresse à l'énergie solaire, on est quoi ? On est ingénieur, physicien, chimiste ? Vous, vous êtes chimiste ?
Alors je suis chimiste avec une formation de physicien. C'est en fait, je suis un physico-chimiste. Et en fait, une cellule solaire, c'est à la fois de la physique, c'est même de l'électronique avec des électrons, mais c'est aussi de l'optique, avec, parce qu'il y a des photons qui arrivent, et c'est aussi de la chimie pour préparer. Et donc en fait, c'est des matériaux. Donc en fait, le photovoltaïque, par essence, c'est un domaine pluridisciplinaire. Parce qu'à la fin, il y a une chose qui est très importante aussi, c'est que faire une cellule solaire, c'est bien, mais il faut pouvoir la répéter. Donc ça suppose aussi que derrière, il y a une organisation, ce qu'on appelle des chaînes pilotes, où on va essayer de répéter les mêmes pratiques et qu'à la fin, le rendement soit toujours le même.
Si votre rêve se réalisait, des panneaux solaires sur les toits, sur les routes aussi, on peut imaginer rouler sur des panneaux solaires, est-ce que ça suffirait à combler tous les besoins énergétiques de la France, par exemple ?
Oui, pas simplement avec les routes. Enfin, il faut pas faire l'erreur de dire « il n'y a qu'à couvrir ». Donc il faut vraiment que ce soit quelque chose qui se fasse de façon concertée, en choisissant les meilleures solutions, l'espace disponible, la surface disponible, est largement suffisante pour couvrir 100% des besoins énergétiques. Alors, on parlait des énergies renouvelables, mais le photovoltaïque en particulier, ou le solaire, il peut couvrir une large partie des besoins.
En été comme en hiver, parce qu'en été, on a plus de soleil, en hiver, il y a moins de soleil. Comment est-ce qu'on stocke cette énergie ?
Le mieux, c'est de ne pas avoir à stocker. C'est-à-dire, en fait, le mieux, c'est de produire l'électricité et de l'utiliser directement lorsqu'elle est produite. Donc ça, c'est une première chose, évitant le stockage. Mais le stockage, en soi, n'est pas une difficulté. C'est-à-dire qu'on sait stocker l'électricité sous forme de batterie.
Les batteries, ce n'est pas la solution idéale, quand même.
Ce n'est pas une solution idéale, mais c'est quand même une excellente solution. Je veux dire, si on n'avait pas les batteries dans les voitures aujourd'hui...
Et quelles peuvent être les autres parties de la solution ?
Alors, ça peut être tout simplement de la production d'hydrogène. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait très bien imaginer d'avoir de la production, c'est-à-dire que l'électricité qui est produite par des panneaux, mais c'est aussi le cas pour l'éolien, quand l'électricité est en excès, eh bien, on en fait autre chose, on la transforme. Donc, on récolte cette électricité et on lui refait faire de la chimie d'une certaine mesure. Donc, si on est capable, par exemple, par électrolyse, à faire de l'hydrogène, on peut très bien, à ce moment-là, produire de l'hydrogène qui va aller dans les capacités de stockage de gaz. Et ces capacités de stockage font que, finalement, on produira, quand il y a du soleil, de l'hydrogène qu'on utilisera comme on utilise aujourd'hui les énergies fossiles. Et vous aurez des voitures qui pourront, par exemple, rouler à l'hydrogène produite par du photovoltaïque quand il faisait beau l'été d'avant, etc.
Vous parlez de l'hydrogène, ça veut dire que vous travaillez avec des chercheurs spécialistes de l'hydrogène et surtout du stockage de l'hydrogène qui est quand même assez dangereux.
Il y a énormément de chercheurs qui travaillent sur l'hydrogène et des entreprises, hein, des grandes entreprises, françaises en particulier, travaillent sur l'hydrogène et les recherches sont au moins aussi foisonnantes que celles du photovoltaïque.
C'est-à-dire et vous parlez ?
Ah oui, oui, on fait plus que se parler, on travaille ensemble, c'est-à-dire qu'on essaye de se concerter pour adapter au mieux les caractéristiques des futurs électrolyseurs, par exemple, aux caractéristiques des panneaux solaires, des fermes solaires, etc.
Vous êtes vraiment en train de préparer le monde de demain, hein ?
Ben, contribuer à y préparer, ça c'était un...
Oui, parce que vous nous avez parlé de votre rêve tout à l'heure, des panneaux solaires sur les toits des maisons, sur les routes. Si on va plus loin, vous imagineriez des agriculteurs qui produiraient de l'électricité avec des panneaux solaires?
Ah oui, alors ça c'est effectivement un point très important, c'est les énergiculteurs.
Hein. Alors allez-y.
Le solaire, c'est une question de gestion de l'espace. C'est une gestion, il faut pouvoir offrir des surfaces à la production. C'est une de ces contraintes. Et en fait, dans le monde actuel, on a tendance à dévaloriser le fait de suivre des cycles de saison. Mais quand on mange, l'alimentation, elle est sur le cycle des saisons. On produit du blé avec certaines considérations. Donc en fait, je crois qu'il y a une sorte de communauté, une proximité qui peut y avoir entre l'agriculteur et la production d'énergie solaire.
Mais alors, qu'est-ce qu'il ferait, l'agriculteur ?
Eh bien, en fait, on pourrait avoir... Alors, ça commence à se faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des hangars, il y a des toitures. Un des endroits où il y a les plus grandes toitures disponibles sont souvent des toitures agricoles ou même industrielles. Mais on peut très bien imaginer d'avoir une politique où les agriculteurs font des compléments de production et deviennent des producteurs d'électricité et que ça fait partie de leur fonction. Et sur les toitures déjà existantes, mais aussi, on voit se développer des mélanges agriculture photovoltaïque avec des serres, par exemple, dans la région de Perpignan. Il y a des exemples où, finalement, la serre, au lieu d'être uniquement du verre, un verre passif, quelque part, une partie de la serre est photovoltaïque. Donc, on peut mêler culture et photovoltaïque.
Et vous allez plus loin encore, vous imaginez que des agriculteurs pourraient faire de l'électricité une fois leur récolte de blé terminée.
Ah oui, ça serait la saison solaire.
Allez-y.
Et la saison solaire, c'est de se dire, alors quand on traverse, il suffit de traverser la France, mais dans le monde entier, vous traversez, vous voyez qu'il y a des moments où il y a un soleil extraordinaire et il n'y a pas de culture. Le blé, il est coupé. Donc vous avez à un moment donné des surfaces, des aires disponibles pour pouvoir faire autre chose. Et ce que font les agriculteurs depuis la nuit des temps, c'est que souvent, ils alternent des cultures au moment de l'année, etc. Eh bien, on pourrait très bien imaginer, si le solaire photovoltaïque continue à gagner en termes de rendement, de coûts, etc., parce que se posent des questions économiques, on peut très bien imaginer ce qu'on appelle du photovoltaïque déployable, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'il fait beau et qu'il n'y a pas de conflit, on déploie des panneaux. On produit de l'électricité ou de l'hydrogène, etc., etc. Bien, à ce moment-là, il peut y avoir une saison photovoltaïque qui viendrait se coupler à ce que font les toits, les routes, etc., etc.
Et ce sera facile de déployer des panneaux ?
Et on peut imaginer des panneaux qui soient, alors peut-être pas avec un rendement aussi élevé que celui qu'on a aujourd'hui avec vraiment les grandes cellules, mais par contre on aura des choses complètement déployables qui avaient commencé à exister à un moment donné. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la moquette solaire à une époque. Il y a une époque, il y a des compagnies qui ont fait faillite parce que la vie est dure pour les gens du photovoltaïque, mais qui commençaient à avoir des rouleaux de photovoltaïque. Et les agriculteurs savent très bien recouvrir à un moment donné leurs champs de bâches. Souvent les champs sont bâchés et ils les rebobinent. Donc on peut très bien imaginer en bout de champ des systèmes réversibles. Mais bon, l'équation économique doit être présente.
Vous avez d'autres idées, Daniel Linco ?
Oh, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. En fait, il y a des idées sur le plan scientifique, parce que bon, mon métier à la base, c'est vraiment au cœur des cellules, comme on pourrait dire. Des idées sur le plan des procédés, il peut encore y avoir des améliorations. Il y a aussi des idées pour peut-être que dans une dizaine d'années, vous voir que le photovoltaïque, et ce qui fait rêver aussi beaucoup les chercheurs, c'est que le rendement théorique du photovoltaïque, c'est-à-dire le rendement, il est autour de 85%.
On peut imaginer des rendements autour de 85%.
Alors, on peut l'imaginer, c'est les rendements qui sont théoriquement prévus aujourd'hui. Alors, l'imaginer, c'est peut-être que ce seront mes petits-enfants ou nos petits-enfants qui commenceront à aller dans ces voies-là, mais ça fait partie des choses que les chercheurs, c'est un peu le Graal, sur les très hauts rendements, d'aller vers des rendements au-delà des 50%.
Et vous pensez à tout ça quand vous regardez le soleil par une belle journée ?
Oui, parfois j'essaye de regarder le soleil sans penser au photovoltaïque.
Merci Daniel Linco. Pour aller plus loin et vous plonger dans le monde de la recherche photovoltaïque des années 70, je vous encourage à feuilleter en ligne le journal des énergies renouvelables qui revient sur le 40e anniversaire du congrès historique de l'UNESCO en 1973, le soleil au service des hommes. Sur la page des Saventuriers, nous avons mis aussi à votre disposition le dessin mascotte des chercheurs en photovoltaïque, le célèbre dessin de Reiser. Tout est sur franceinter.fr. Merci à Fabrice Lègle, Christiane-Alain Favre et Jean-Baptiste Audibert qui ont participé à cette émission et merci à Jean-Philippe Jeanne à la technique ce soir. Dans un instant, il y aura les récits d'Isabelle Autissier, mais tout de suite, on écoute Kate Bush, Army Dreamers.
Of all that.